SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je pense que quand on est à l'étranger, d'un seul coup, on se sent plus responsable de sa langue que quand on est en France où on est baigné dans le français. On fait pas attention quand je suis à l'étranger ou même quand je suis dans les radios, dans les interviews, d'essayer de parler un français de bonne qualité.
Oui, et en même temps, il y a cette responsabilité. Il y a aussi une sorte de code de déontologie dans le sens qu'il y a tellement de formes de français, finalement, on se demande si, effectivement, on pouvait quelquefois se permettre quelques écarts de langage, mais il faut quand même faire très attention. Surtout que les écoles et les universités et nous écoute aussi.
Oui, non, mais en plus, il faut garder le français
oui.
par Chadi oui. pour pouvoir, justement, dans les films, dans la littérature, quand on emploie la meuf ou ses chambées, ça veut dire quelque chose. Mais si on le dit, nous, au premier degré, ça devient des choses qui ne sont plus perceptibles. C'est comme c'est comme la sémiologie du costume. Commencer à mettre un smoking avec des tongs, enfin, ou avec des nu-pieds, ça veut dire quelque chose. Mais si vous le détournez tout le temps, on ne sera plus dans la vérité du signe, quoi. Enfin bon.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a cette attitude aussi vis-à-vis du français, mais en même temps, ça date énormément. J'allais dire le vernaculaire, mais l'argot, tout simplement. Et il y a plusieurs sortes d'argot. Alors, quel argot choisit-on? Est-ce qu'on choisit l'argot étudiant?
Oui, dans les films contemporains que j'écris ou que je coécris, j'emploie assez peu d'argot parce qu'il n'y a rien de plus qui se démode que l'argot.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord.
Il vaut mieux employer un langage imagé. C'était le grand succès de Audiard ou de Janson, de Prévert. Ils employaient des images, ils jouaient avec les mots et les gens sont très sensibles aux mots. Moi, je viens de jouer une pièce là pendant un an sur Sainte-Beuve et les amours de Sainte-Beuve et d'Adèle Hugo, la femme d'Hugo, enfin, qui était comme ça un sujet au départ extrêmement ennuyeux ou en tout cas aride
et très littéraire.
Une pièce contemporaine qui a été écrite par quelqu'un donc d'une cinquantaine d'années, qui a écrit avec une très belle langue et j'étais assez surpris de voir à quel point les gens fonctionnait parfaitement. Et une fois qu'on avait passé le cap du vouvoiement et de certains mots qu'on n'emploie plus, les gens adorent les mots, en fait. Et même les gens simples, même les gens peu éduqués adorent les mots. Et il y a beaucoup d'émissions en France, comme les Grosses Têtes ou comme les émissions de déconnade, entre guillemets, où les gens sont fascinés par des gens comme Jean-Yann ou comme Jacques Martin ou Francis Blanche, des gens Poiret Serrault, Guitry. Enfin, les gens populaires aimaient beaucoup Guitry parce que ils y trouvaient un langage qui ne ce n'est pas eux, mais qui comprenaient parfaitement.
Parce que ce sont des orfèvres des mots.
Absolument, oui.
Récemment, j'ai interviewé Anès Barda qui parlait des glaneurs et moi. Et les glaneurs et la glaneuse, parce qu'en anglais, c'était the gleaners and I. Je lui disais, mais c'est incroyable, parce que vous êtes en train de filmer des laissés-pour-compte, finalement. Et pourtant, leur langage est très beau. Et c'était des gens qui étaient véritablement les paumés de la société, mais leur seule dignité, c'était leur capacité de s'exprimer.
Absolument, mais absolument. Je pense que moi, je me bats beaucoup dans ce domaine. Je pars du principe que tous les problèmes qu'on peut avoir en banlieue sont évidemment des problèmes sociaux, souvent, mais sont souvent des problèmes culturels, et que ce n'est pas uniquement le foot qui peut régénérer ses mômes, et qu'à partir du moment où on n'a pas de langage, eh ben, on tape dans la gueule du voisin quand on n'arrive pas à communiquer, parce que le langage, c'est ça qui vous paie. Et il y avait une chose très belle que disait un auteur. Toujours est-il qu'il avait dit une chose très jolie, il disait « Méfiez-vous ». Si vous avez 100 mots de vocabulaire, vous aurez une vie de 100 mots. C'est-à-dire vous aurez des bonheurs de 100 mots, vous aurez des plaisirs de 100 mots, vous aurez des tristesses de 100 mots, des malheurs de 100 mots, des angoisses de 100 mots. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que plus on a de mots, plus on peut exprimer les choses. Évidemment, sans rentrer dans la psychanalyse à outrance, c'est important de pouvoir s'exprimer. Sinon, sinon, quand on ne sait plus s'exprimer, on tape dans la gueule de son voisin.
Et c'est précisément ça. C'est pour ça aussi que les petits garçons, en général, tapent alors que les petites filles parlent.
Oui, oui.
Et au jardin d'enfants, c'est évident. Gérard Jugnot, on parle d'enfants, justement, et votre film, Monsieur Batignolle, est une merveilleuse démonstration que l'enfant est le père de l'homme.
Absolument, et l'enfant peut apprendre à l'homme, à devenir un homme. C'est ça qui nous avait intéressé, nous, avec Philippe Lopez, mon scénariste, c'est qu'on cherchait à confronter deux destins, le destin d'un homme ordinaire, d'un Français ordinaire, et d'un autre Français, enfin non, il ne l'était pas, mais d'un Juif qui était persécuté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui nous intéressait, c'était cet affrontement entre Goy et Juif. Et d'un seul coup, on trouvait que si on avait confronté deux adultes, ça aurait tourné justement à peut-être à une certaine agressivité, ou à de la bagarre, ou à ce qu'on a vu, ce qui était arrivé. Donc le fait que ce soit un enfant qui apprenne la vie à M. Batignolle désarmait ces conflits, et surtout permettait à un plus large public de comprendre parfaitement ce dont on parlait. C'est ça que je trouvais assez clair dans le message du film, tant est qu'il y en ait un, qui est un message d'humanité, de compréhension. À partir du moment où c'est un enfant qui explique à un adulte, on comprend plus et on peut toucher un plus large public.
Oui, et ce qui était particulièrement réaliste, c'est que cet enfant était enfant gâté, donc c'était effectivement un petit garçon adorable par certains moments, mais qui était aussi assez insupportable par d'autres moments, et oui. D'ailleurs qui fait presque capoter toute l'opération de sauvetage.
Non, ce qui était important, c'était de montrer que c'est pas parce qu'il était victime qu'il était zéro faute.
Oui.
Ça, c'était important. C'est pour ça que c'était aussi important que moi, qui ne suis pas juif, je puisse parler de ce sujet. C'était aussi le point de vue de quelqu'un qui n'était pas juif. Et donc, je charge ce Français moyen, ce Français ordinaire. Mais on est obligé aussi, pas de charger, mais ce qui était intéressant, c'était de montrer que c'était un enfant gâté, que les problèmes qu'il pouvait avoir avec Batignolle étaient aussi des problèmes de classe, des problèmes de bourgeoisie face au petit commerce, des problèmes sociaux. Bien souvent, les problèmes de racisme sont liés à des problèmes sociaux, à des problèmes d'argent, à des problèmes de pouvoir et de classe. C'est vrai que moi, je ne voulais pas, c'est pas parce que ces gens ont été persécutés, anéantis de manière abominable, qu'ils n'avaient pas de défauts. Les bourreaux, il s'agissait aussi, pas de leur trouver des excuses, parce que, en tout cas, des raisons. Moi, je dis toujours à mon fils, ce n'est pas parce qu'on a des raisons qu'on a forcément raison. Mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens, à un moment donné, vont être des héros, c'est des mots un peu larges. En tout cas, pourquoi les gens vont bien agir ou ne pas bien agir? Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre?
Oui, mais il y a quand même au départ, déjà, je dirais, par exemple, le beau-fils ne pourrait jamais être une personne bien.
Oui, lui, enfin...
Il était caricatural, c'est vrai.
C'est vrai aussi. Non, on n'est pas dans la caricature. Moi, je fais une comédie dramatique.
Oui, c'est une comédie dramatique.
Donc, si vous voulez, il y a on est dans une œuvre de fiction. Et donc, je pense qu'on n'est pas dans une caricature, on est dans un archétype.
Oui.
Quand on me disait ça, j'ai monté un peu en bagarre contre ça, parce que je trouve que c'est pas le bon terme, le caricature. Caricature, ça veut dire forcer des choses qui ne sont pas vraies. Or, tout ce que dit Jean Lamour, enfin Jean-Paul Rouve, mais on est vraiment en deçà de ce qu'il se disait à l'époque. Il y a deux moments dans le film où il lit des journaux. Je peux vous dire que moi j'ai lu ces journaux qui avaient été publiés en 1942, c'est effarant ce qui se disait. Et donc ce que lui dit, on est vraiment en dessous de la réalité. Donc on n'est pas dans la caricature, on est même plutôt dans... On
a plutôt à neutraliser un peu.
À neutraliser un peu ça. Donc c'est ça qui était important. Maintenant, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut plus dire, et heureusement. Là où ça commence à devenir grave, c'est quand on ose les dire. Vous savez, combien de fois dans la vie vous dites des choses terribles au fond de vous, hein,
oui.
Vous ne direz jamais à personne. Vous direz, oh merde, j'ai pensé ça, quelle horreur. Comme dans Tanguy, il y a une chose assez jolie, c'est pas grave, ça fait partie de la nature humaine, ça. Mais la vie en société, elle doit faire que... On ne doit pas le dire, ça. On doit le refrainer, on doit le combattre. Et ce que je trouve terrible dans les idéologies comme le nazisme, le fascisme ou l'extrême droite, c'est que... Ou même l'extrême gauche, parce que...
Voilà, parce qu'ils sont vraiment cousins.
Oui, il ne faut pas rêver. Hein.
Mais revenons à votre film.
On parlait du langage tout à l'heure, on retombe là-dedans.
On retombe dans le langage et la façon dont il peut être manipulé.
Manipuler et comment il peut, oui. Parce que ce qui était intéressant, moi, ce qui m'intéressait dans le personnage de Batignolle, c'est que c'est quelqu'un qui ne pense pas par lui-même. C'est quelqu'un qui ne pense que par lieu commun, par cliché.
Mais c'est sa survie aussi.
C'est sa survie, il est protégé. On lui a dit que c'était comme ça, on lui a dit que les Juifs étaient ci, on lui a dit que c'était ça, que la plague à Athénane. Hein. Donc il est dans une espèce de cocon, de cliché, de lieu commun, que j'ai bien connu, parce que mes parents, ma famille ont baigné là-dedans. Et d'un seul coup, ce petit garçon, parce qu'il est très intelligent et parce qu'il est dans une situation terrible, il sonne à la porte. C'est un peu comme le destin qui sonnerait à la porte de Batignolle et qui va lui ouvrir les yeux et qui va lui ouvrir aussi les oreilles. Quoi. Et qui va, d'un seul coup, le faire penser par lui-même des meilleures pensées, d'une pensée autonome, et qui va après retraduire par cette scène que je trouve très belle où il est face aux gendarmes, où d'un seul coup, comme un avocat, par empathie, il va endosser la personnalité d'un juif et il va dire, voilà, tout ce que j'ai entendu, voilà ce que je vous le balance pour essayer de faire honte à ce gendarme, qui, ça ne fonctionnera pas, et c'est d'ailleurs un coup de pied dans les couilles qui le sauvera, alors que...
Absolument.
Un très beau langage, donc c'est là aussi on arrive à la limite du langage.
Mais absolument. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il s'est complètement identifié à ce moment-là.
Absolument, oui.
Parce que ça a été sa libération. Sa libération à lui.
Ouais, c'est un phénomène d'empathie, c'est un mot que je connais depuis un an ou deux, que j'oublie très vite, très souvent, mais qui me convient beaucoup et qui convient beaucoup à mon travail de metteur en scène acteur, auteur, c'est-à-dire qu'on se met à la place des gens avec une bienveillance, comme ça, pour essayer de les comprendre et pour essayer de comprendre le monde.
Et c'est en allant vers les autres qu'on se comprend soi-même aussi.
Peut-être. C'est une autre chose. Après compris, je vous appellerai.
Gérard Jugnot, ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin du film, cet homme qui était fruste et qui ne voulait pas trop penser, et d'ailleurs qu'il disait aux autres, ne pensez pas trop, parce
absolument
qu'il ne voulait justement pas avoir de problème.
Faites comme moi, ne pensez pas trop.
Voilà.
Quand on y pense, oui, faites comme moi, pensez pas trop.
Bon, eh bien, à la fin du film, il remercie l'enfant.
Oui.
Parce que l'enfant l'a libéré.
C'est une phrase qui est très jolie qu'on avait, je crois que c'était Philippe qui avait trouvé ça, et je trouvais ça en plus très joli parce que c'est une phrase de commerçant. Quand il lui dit merci et non, et moi je lui réponds, c'est moi qui te remercie. Et c'est une chance, on dit ça dans les commerces, quand on dit merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. c'est une expression de,
presque automatique,
de commerçant, et qui est détournée, que je trouve très jolie.
Et qui est pensée et réfléchie quand il
absolument
le dit. Parce qu'il est
absolument
vraiment très très ému quand il le fait. Gérard Jugnot, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur le film? On parlait de langage, on a commencé d'ailleurs avec la langue. Et à un moment donné, l'occupation nazie est particulièrement effrayante. Et c'est justement dans ce colonel, Streich, qui parle de la langue. Et il dit des choses. D'abord, quand la danseuse disparaît, il dit ils ont disparu comme l'armée française. Donc le premier sujet de mépris et de moquerie. Et puis, tout est provisoire, n'est-ce pas, mademoiselle? Il est vraiment l'avocat du diable.
Vous avez vu le film, dites-moi.
Ah, mais vous savez que quand je vois un film, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que je trouvais que chacune des répliques avait été extrêmement travaillée, dans le sens qu'elle avait été réduite à l'essentiel, absolument l'essentiel.
Oui, mais c'est assez rare que des gens exégètent du cinéma et ce regard, moi je vous en félicite et j'en suis très fier. Je suis très fier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connotations, comme quand Batignolles dit « je ne peux pas être partout », qui est un clin d'œil à « Je suis partout », le journal de la collaboration, mais ça, il faut vraiment connaître bien les choses.
Oui, non, il y a des moments super comiques, justement parce que c'était décalé par rapport à ce que l'on sait selon les références. Mais
il fallait quand même qu'on reste dans un réalisme.
Oui, absolument.
C'est pas une fable, c'est une comédie dramatique. Parce que moi j'aime la comédie, j'aime faire rire les gens, et je trouve que le rire donne un petit peu de légèreté au drame, et que le drame donne du poids et de la substance à la comédie. Donc j'aime ce mélange. Mais et quand vous parlez de... C'est vrai que Spreiss dit à un moment, le Gaulois...
Mais il ne reste que 20 mots.
Et c'est vrai qu'il n'y a que 20 mots dans la phrase de Gaulois.
Mais ce qui était incroyable, et on revient à l'occupation, c'est qu'il connaissait parfaitement et l'histoire de France et les différentes références pour pouvoir les détourner à leur intérêt.
Absolument. Et en plus, si vous voulez, il y avait une grande collaboration avant Pacifique entre la France et l'Allemagne avant-guerre. Donc moi, j'étais assez stupéfait. On a beaucoup travaillé sur des documents, on a beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné, pour pas dire de bêtises, sur tout ce qui est la confiscation des biens. Ça n'a jamais été traité quasiment. Sur les déménageurs qui venaient chercher les meubles, tout ça, tous ces entrepôts, il y avait tous les pianos, tous les meubles, tout ça, c'est insensé ça. Mais... C'est vrai qu'il y avait les Allemands, et ça a trompé les Français. Ils voulaient faire en fait une sorte de Disneyland pour les combattants. La France était le pays, le gay Paris, où on venait se détendre avant de repartir vers le front de l'Est qui était abominable.
Oui, oui, c'était le repos du guerrier.
Absolument. Et puis bon, au départ, les Français étaient contents, comme on leur a fait croire que tout se passerait bien. Et puis l'anéantissement de l'armée française a été quelque chose de terrible pour les Français.
Et c'est pour ça qu'il en rit, le colonel Sprach. Il en rit parce qu'il dit qu'ils ont disparu comme l'armée française.
Les Allemands n'y croyaient pas. Les Allemands, quand il y a eu la Blitzkrieg, ils croyaient que ça allait durer un an ou deux et qu'on allait résister. Ah non. Et là, l'effondrement de l'armée, ça a été quelque chose d'énorme pour les Français. Et moi, ça m'intéressait en tant qu'homme de voir comment j'aurais réagi dans cet état de fait. C'est pour revenir à cette culture allemande. Il y a ce mot formidable que j'adore. Une femme comme ça dans un dîner allemand, enfin avec des Allemands pendant l'occupation, et il y a un Allemand qui dit « Ah, la France, les peintres, la musique, tous ces beaux châteaux, toutes ces choses, ces merveilleuses choses de la France, les paysages de la France. » Et la femme dit au colonel allemand, écoutez, quand vous serez parti, revenez. Je trouve ça très joli.
Mais à un moment donné, ce colonel Sprach en allemand dit, mais dans 10 ans, le français n'existera pas. Alors là, on voit, il était à la fois conscient de ce qu'il faisait, mais lui, c'était véritablement l'envahisseur et l'occupant.
Oui, avec une part aussi de caricature, d'archétype, puisqu'il s'agissait aussi de faire un personnage de comédie. Mais toute la difficulté de la comédie, c'est de rester dans la vérité et en même temps de forcer un peu le trait pour provoquer le rire et le ridicule. Et ce personnage-là est à la fois... C'est vrai que moi, j'ai choisi un acteur allemand extrêmement sympathique. Parce qu'il fallait qu'il soit extrêmement sympathique, mais quand il dit « nous ne sommes pas contents des dernières rafles », ça fait froid dans le dos, parce que si on prend un type qui a une sale tête, ça fait le coup.
On s'y attend, quoi.
Donc c'est ça qui est assez...
Oui, parce qu'il alternait le sourire et le rictus très absolument. Facilement. Très facilement. Mais alors revenons justement à ce personnage, ce Français moyen, cette personne qui n'a jamais pensé pour lui-même, qui d'ailleurs ne veut pas penser pour lui-même parce qu'il ne veut pas de problème, et qui se retrouve avec le destin lui fait signe, et puis comme c'est quand même quelqu'un qui voit la vie d'une façon qui est très positive dans son petit cercle à lui, quand il dit bonjour à ses lapins, il dit bien dormi les civets. J'ai trouvé ça adorable comme phrase, bien dormi les civets. On voit que c'est quelqu'un qui est la bonne humeur, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et puis qui travaille du matin jusqu'au soir de toute façon, donc il n'a pas vraiment...
C'est des gens... Moi j'avais un grand-père qui était boucher pendant la guerre.
Il ne faisait que ça, il ne travaillait sans arrêt.
C'est ça, oui, c'est ça qui m'a moi donné l'idée, parce que j'adorais ce grand-père maternel, et j'ai appris qu'en 48 il avait fait faillite. Donc je me suis dit, tiens, s'il a fait faillite, c'est qu'il n'a pas dû faire beaucoup de marchés noirs, et je l'ai trouvé très, du coup encore plus sympathique, et je me suis un petit peu... servi de cette enveloppe charnelle pour créer ce personnage. Un personnage comme ça, le bon sens populaire, avec tout ce que ça a de négatif, hein, et en même temps un sens que j'aime moi un petit peu, puisque j'ai eu par éducation, de il est midi, on mange, il est 7 heures, on mange, on dort, on se repose, enfin des choses comme ça bécasses, mais qui sont finalement pas forcément...
La structure de la vie aussi, la texture de la vie de tous les jours, des petites gens... finalement, parce que de ceux qui ne font pas l'histoire, mais qui doivent s'adapter
absolument.
Aux circonstances.
Et je pense que, si vous voulez, j'en connais peu des grands héros. D'ailleurs, quand vous commencez à côtoyer les grands héros, vous apercevez que tout ça n'est pas si simple que ça.
Non.
Jean Moulin est très très complexe par rapport à des, c'était un homme politique plus qu'un héros. C'est un grand manipulateur et un réunificateur de l'armée secrète. Mais les petits héros, c'était... Avec toutes ces ambiguïtés, moi, si vous voulez, quand j'ai travaillé sur ce sujet, je suis allé dans le Jura et on m'a raconté une histoire que Gilles Perrault avait interviewé une femme qui avait un petit chalet près de la frontière suisse. Et elle avait fait passer des foultitudes de gens, de familles, la plupart juives. Et donc, il l'interviewe, elle avait 85 ans. Il dit, alors, vous êtes un héros. Oh, arrêtez de m'emmerder avec ça. J'ai fait ça, il fallait que je le fasse. Mais pourquoi ? Il y avait 2000 personnes qui sont venues, j'ai fait passer 2000 familles, ils étaient dans la neige, il y avait froid, moi j'étais près de la frontière, je pouvais faire ça, mais c'était très dangereux, on aurait pu vous dénoncer, mais oui, bien sûr, et c'était des juifs, oui, la plupart c'était des juifs, et elle termine l'interview en disant, oui, mais vous savez, je les aimais pas beaucoup ces gens-là.
Incroyable.
C'est incroyable. Et je trouve que la vie, elle est là, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a de terrible, cette femme qui sans doute qui a fait des choses beaucoup plus héroïques que peut-être même Jean Moulin.
Oui.
Et avec des idées moins belles. Et en même temps, moi c'est ça que j'ai dit souvent, c'est qu'on peut dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir au fond de soi, je déteste les j'aime pas les rouquins, j'aime pas les blonds, j'aime pas les bruns. De là à le dire fort et à les mettre dans des camps, il y a quand même un grand pas qu'il faut pas faire.
Mais c'est incroyable cette histoire, c'est vraiment incroyable. C'est là où on revient à Cocteau, je crois que c'était dans Les Parents Terribles, où il dit ne fouille pas trop le cœur des gens.
Oui, mais surtout, oui, en plus, c'est Cocteau, même par rapport à la guerre.
Oh oui.
C'est pour ça que j'ai mis la scène de Sacha Guitry.
Oh, j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil.
Parce que je trouve que Sacha Guitry, bon, a payé beaucoup, hein, il a payé très fort le fait de continuer à exister pendant la guerre. Mais par exemple, Cocteau, qui lui était très mouillé, on n'a rien dit. Il y a eu beaucoup de gens. Et Jean-Paul Sartre a débuté très très calmement sa vie artistique pendant la guerre sans rien faire. Donc tout ça, c'est des petites injustices. Mais c'est souvent des injustices sur les comiques.
Parce que ce sont les plus dangereux, parce que ce sont eux qui sont les détracteurs. Et d'ailleurs, ce clin d'œil est aussi un petit sourire en coin. Quand ce petit minable lui dit « Mais vous m'insultez, monsieur ?» Il dit « Oui, mais je n'en fais pas mon gagne-pain. »
Heureusement, la critique n'a pas compris.
D'accord. Gérard Jugnot, il y a des moments de tendresse extraordinaires. Quand il amène à ce petit garçon qui est assez difficile, qui demande des choses, qui est pourtant dans une situation impossible, qu'il a les nazis dans son salon, qu'il a ce gamin qui est malade et qui est dans la chambre de bonne, il lui emmène ses soldats de plomb qui étaient à lui quand il était petit. Parce qu'il se rend compte que l'enfant n'a plus de livres, n'a plus d'instruments, n'a plus rien. Il est tout seul, il a tout perdu.
Ouais, je trouve ça joli, quoi, parce que lui, il n'a pas de livres. Il le dit d'ailleurs, les seuls livres.
Je travaille du matin jusqu'au soir.
Et il ne lit pas, mais il sait quand même que cet enfant est un enfant et qu'il faut savoir jouer, qu'il faut savoir l'occuper. Et moi, j'avais cette complicité avec mon grand-père, qui était quelqu'un qui ne lisait pas, mais qui me fabriquait ses jouets. Je me souviens de ce vieux bonhomme que j'adorais, qui n'avait pas de sous parce qu'il avait été parti en retraite à 45 ans, 50 ans. Et donc, il n'avait pas de retraite, donc il tirait un peu le diable à la queue et j'allais chez lui en vacances. Et à Noël, je voyais cet homme totalement effondré parce qu'il n'avait pas de quoi nous offrir des beaux jouets qu'on aurait pu acheter au Galeries Lafayette. Donc, mais il fabriquait lui-même des jouets pour nous. Il nous fabriquait un château fort, une ferme. Il était très bricoleur, il les peignait. S'il pouvait savoir à quel point ces jouets nous touchaient, même si sur le moment on aurait préféré un jouet Fisher-Price ou une saloperie en plastique, mais moi je sais que maintenant, c'est peut-être gardé, je ne sais pas où ils sont, mais c'est ceux-là que j'ai gardé, c'est ceux-là que j'aimais. Oui. Et je voyais, j'étais trop jeune pour lui dire, mais au contraire c'est ça, c'est mieux. Et je voyais cette petite tristesse parce qu'il n'avait pas l'argent pour faire, alors qu'il avait plus de cœur. En travaillant pendant 8 jours pour faire une petite ferme, alors que s'il avait été dans un magasin, il aurait fait un chèque et il nous aurait offert une merde en plastique qu'on aurait cassé 3 jours après.
Et il donnait dans la durée aussi.
Absolument. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises avec lui. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, profondément marqué. Quoi.
Et c'est magnifique quand on peut avoir un mentor de cœur qui soit justement un homme de bien ou une femme de
Absolument.
Bien.
Alors, je ne sais pas s'il a été un homme de bien. Je ne sais pas si...
Et vis-à-vis de vous
Déjà, vis-à-vis de moi, il était un homme de bien. Et c'est vrai que cette histoire que je raconte, on m'a dit, ah, c'est une histoire de grand-père. Je dis, non, je me suis servi de ça. Et c'est un petit peu comme si, moi, j'avais fantasmé sur ces gens, sur ces Français ordinaires dont je viens. C'est un peu aussi la mise en abîme de ma vie. Moi, je suis un petit bonhomme ordinaire. Je vois ma tête sur des affiches énormes. Ça me fait bizarre. Mais c'est la même chose, parce que c'est le fantasme sur... Attention, les gens ordinaires peuvent être des gens bien aussi, oui. Des gens exceptionnels, et qu'il y a peut-être plus d'héroïsme chez un pompier de New York que chez Bruce Willis.
Tout à fait d'accord avec vous. Ils ont prouvé leur héroïsme. Ils l'ont payé très cher, eux aussi, leur héroïsme.
Mais c'est vrai aussi que c'est aussi toute l'ambiguïté de ce métier. Moi, je fais des films. Quand je fais des films comme étant en scène, je ne suis que acteur. Donc si je joue un héros, c'est pas moi le héros, c'est le personnage que j'interprète. Et les acteurs ont malheureusement souvent le défaut de croire ce qu'ils jouent.
C'est une grave erreur. Surtout quand il y a une énorme machine publicitaire qui continue à perpétuer...
Même sur une petite scène de théâtre en banlieue, vous pouvez croire. Donc, vous jouez un héros. Moi, j'ai joué, par exemple, cette année, j'ai joué Sainte-Beuve, qui était amoureuse d'Aden, une femme assez belle, même très belle, et tous les soirs, pendant 220 fois, elle avait les larmes aux yeux, elle me disait qu'elle m'aimait, après elle me jetait, enfin bon. Mais ça peut être un truc de fou, hein.
Ah oui,
on vous paye pour monter sur une scène devant des gens qui vont vous applaudir, vous mettez un petit peu votre cœur à nu et il y a une fille très belle qui vous embrasse et qui vous dit qu'elle vous aime. Même si dans la loge, elle ne vous dit pas ça. C'est un truc de fou. Moi, je n'avais pas expérimenté ça. Pareil, Batignolles, c'est pas un héros. Batignolles, c'est un héros, mais pas Gérard Jugnot.
Mais vous l'incarnez quand même très bien, Gérard Jugnot.
Mais
vous avez écrit le texte et vous avez réalisé le film.
Il y a une partie de moi quand même.
Quand même. Mais... Écoutez, ce que j'adore, je vais vous parler un petit peu des moments que j'ai trouvés particulièrement privilégiés. Quand il parle à ce petit garçon, il lui dit, imagine si tout le monde se disait la vérité, Simon, ça serait la guerre. Et le petit gamin qui dit, mais c'est la guerre. Mm-hmm. C'est là où il y a cet enfant qui devient le mentor de l'homme. Il est d'une logique implacable à cet enfant.
Oui, ce qui nous intéressait, nous, c'est quand l'autre dit, mais je sais ce qu'ils vont faire, ils vont vous emmener, c'est pour faire des routes.
Voilà, casser les cailloux.
Et pour casser les petits cailloux avec des marteaux et tout. Et l'autre dit, et les enfants, ils auront des petits cailloux. Et moi, enfin, le personnage dit, oui, avec des petits marteaux. Et là, d'un seul coup, on avait écrit une scène. Enfin, une réplique où le petit disait « c'est des bêtises », je l'ai pas fait dire au môme, parce que c'était tellement clair que c'était une connerie, que le regard de l'enfant, qui est un acteur formidable, le petit Simon, là, le petit Jules Citruc,
oui.
D'un seul coup, rajoutait, enfin, c'était terrible. Et par exemple, il y a des choses comme ça, moi j'adore les regards. Bon, là, on est au téléphone, c'est plus gênant, mais si vous voulez, quand il pique-nique et que
L'air pur.
Batignolles dit, moi j'ai fait 14-18, c'est important de parler de 14-18, ça a beaucoup marqué les Français de cet âge-là. Moi, je me suis... c'est quand on fait des films, l'avantage, c'est quand on se remet totalement en situation, on essaye des costumes, on se dit, moi j'ai 40, enfin j'ai 50 piges en 1940, ça veut dire que j'avais 30 ans en 14 et que donc j'étais dans les tranchées. Vous vous rendez compte, 20 ans c'est pas beaucoup. Hein. Et donc d'un seul coup on touche du doigt, justement par ce phénomène de projection empathique, de dire merde, ça devait être ça. Et c'est facile de juger maintenant en disant mais comment ça se fait qu'ils ont perdu la guerre, comment ça se fait, c'est fou quoi. Et donc quand il parle de ça, il dit, vous connaissez pas votre bonheur, c'est une réplique.
Oh, et l'expression des enfants est magnifique.
C'est ça, et ça c'est une phrase qu'on avait écrite comme ça. En la jouant, je me suis dit, ben non, ils peuvent pas, il faut absolument, c'est absolument obligatoire qu'il y ait des réactions des enfants là-dessus. Donc on a fait des silences, et j'ai monté des regards des enfants, et je trouve ça d'un seul coup.
C'est magnifique.
C'est à chaque fois comment les enfants lui font toucher du doigt la réalité, et que c'est les enfants qui sont finalement le père de l'homme, ou en tout cas qui sont les professeurs qui apprennent. Qui apprennent à Batignolles la vie qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer. Parce que moi, j'aime beaucoup que les films permettent aux héros de d'évoluer, même si dans la vie, ce n'est pas toujours le cas.
Mais en même temps, dans le cas de ces enfants, ils ont été obligés de devenir adultes très vite parce qu'ils ont été séparés. Et c'est à eux qu'ils retournent. Ils retournent à l'adulte qui, lui, est resté quand même très, très naïf et enfantin.
Et absolument, c'est ça qui était intéressant, c'était de montrer que malgré tout ce qui leur arrivait, on aurait pu le faire pleurer plus souvent. Je le fais pleurer qu'une fois. Ce qui était marrant, c'est qu'avec les enfants, même avec le fils de la ferme, ce qui était rigolo, intéressant, c'est que la vie va mal parce que les adultes se comportent comme des enfants, comme Batignolles, et que ça redéconne quand les enfants se prennent pour des adultes. Dans la fin, avec la ferme, le moment où on pense que tout va bien, tout remerde à cause de cette espèce de truc où il joue à la guerre, où il y a de la jalousie de l'enfant par rapport à sa mère, à la fermière. C'est ça qui m'intéressait. C'est ce renversement qui m'intéressait.
Mais il y a aussi ce moment magnifique quand il voit le prêtre. Il dit, c'est lui le passeur. Il dit, qu'est-ce que tu attendais, un rabbin?
Je pense qu'il faut aussi, sans manquer de respect, il faut débroussailler un petit peu ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez remarqué que le môme est un enfant gâté, que le père était un peu puant, le père.
Oui.
C'est pas de l'antisémitisme que de dire qu'un grand bourgeois peut être méprisant par rapport à un petit commerçant. Il se trouve que là, il est juif, mais les mêmes rapports. C'est ça qui, moi, m'intéressait, c'était de montrer certaines vérités. Et pourquoi se priver de vannes ou de blagues ou de trucs qu'on peut se dire, et qui est amusant, je trouve que c'est ça qui donne la vie.
Mais alors, j'ai pensé aussi au moment que dit, vous étiez très fier en quelque sorte, il dit ça au père, mais en même temps, je pensais que étant traiteur, naturellement, il traitait du porc principalement.
Bien sûr.
Je n'en mange pas.
C'est pour ça que l'autre n'est jamais dans sa boutique.
Mais voilà, c'était une des raisons primordiales quand même. Mais
c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui était intéressant, c'est de faire un charcutier qui ne travaille que dans le porc. Se confronter à ce petit garçon et qui ne mange pas de porc et qui est cachère. Donc ça, c'était assez rigolo, quoi. Avec le cauchemar du porc et je ne suis un porc, enfin toute la symbolique de la charcuterie.
Mais en même temps, quand il découvre les gamines qui rejoignent leurs cousins et puis il dit, mais c'est pas une colonie de vacances. C'est à l'opposé de ce que ça pourrait être.
C'est là où la comédie est forte, c'est qu'elle fait passer les choses d'une manière plus simple et en même temps d'une manière plus vraie, quoi. C'est vrai que...
Parce que tout le monde le dit à un certain moment.
On a parfois, je veux dire, dans un enterrement, on a au défouré.
Ah oui, oh là là. Ou à l'église.
On peut avoir, je ne sais pas, un problème intestinal. Moi, ce que j'adore dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous marier et avoir des gaz. Excusez-moi, c'est vulgaire. Je ne serai jamais dans la
Absolument.
Vie, mais c'est ça qui est amusant, quoi. Ce qui est amusant, c'est... Parce que c'est marrant dans la vie, c'est ça, c'est que d'un seul coup, vous êtes en train d'embrasser la plus belle femme du monde et vous avez envie d'éternuer. Et ça, c'est l'humain.
C'est l'humain. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est quand il rouspète contre ce gamin qui est quand même assez difficile et il lui dit « Mais tu moulines, on dirait ma femme !»
Oui, même l'héroïsme final, quand il décide de partir avec les enfants et qu'il trouve ce truc très joli, je trouve, de côté tout parler pas le suisse, il commence à faire croire. Moi, j'aime beaucoup les gens qui prétendent faire. Oui. Ça me touche beaucoup, moi. Et il part, mais aussi bien il part parce qu'il veut peut-être pas retrouver sa femme.
Oui.
Cet héroïsme-là, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de héros qui sont partis parce que...
Ils voulaient s'en aller, ils voulaient quitter la...
Ils voulaient chez eux parce qu'ils avaient plein de cul de bobonne ou des enfants, tout ça. Hein. Je crois que c'est pas toujours aussi simple. Regardez, Jean Gabin, il a quitté la France. On dit que un grand héros pour se battre dans l'armée française, mais ils sont tous suivis Marlène Dietrich. Hein? Et surtout
Il faut le rappeler.
Non, mais après, il est devenu un grand héros. Mais enfin, faut pas déconner. Et tout ça, c'est comme ça. Dans la vie, c'est pareil. Combien de héros se sont engagés dans l'armée secrète parce qu'il y avait une belle gonzesse qui voulait pâter. Donc ça, c'est plutôt, moi, c'est ça qui m'amuse. Moi, dans la vie, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des tas d'aspects assez étranges.
Oui, et vous savez, je pensais à ça principalement parce que quand on voit par exemple le nombre de jeunes Australiens qui créent un pays en Première Guerre mondiale, dont le nombre était vital pour que le pays se mette en marche, et qui se sont engagés et qui ne sont pas revenus. Mais en même temps, la vie à la ferme ne devait pas être facile non plus.
Absolument.
C'est exactement ce à quoi vous référez.
Attendez, j'ai fait mon service militaire, je suis un des rares de ma génération. J'ai vu des paysans pleurer parce qu'ils étaient réformés.
Ah bon?
Parce que pour eux,
ils s'échappaient.
C'était une échappée formidable parce qu'ils pouvaient dans ce cas-là ne pas travailler au champ parce qu'ils travaillaient 18 heures par jour. Et surtout, ils se marieraient jamais parce que c'était considéré comme des lavettes ou des homosexuels ou des, enfin, je sais pas, des choses. C'était assez étonnant, ça.
Moi, c'est fascinant.
Je traque beaucoup le paradoxe, le petit détail qui tue, le que j'aime, moi.
Mais Gérard Junot, il y a un autre paradoxe. C'est ce petit garçon, ce petit bout de chou qui parle plusieurs langues. Et à travers les questions, vous vous rendez compte que le père du petit garçon et vous-même, vous étiez dans les camps opposés. Et que peut-être que c'est le père du garçon qui vous a lancé le morceau de shrapnel que vous avez dans la cuisse. Non, c'est extraordinaire parce que effectivement les Juifs allemands étaient allemands d'abord pendant la Première Guerre mondiale.
Et surtout, c'était important. Là, c'était important qu'ils soient bilingues parce que dans la réalité historique, la rafle du Veldiv, c'était les étrangers, les Juifs étrangers. Il y a eu pratiquement pas de Juifs français qui ont été embarqués. Donc on ne pouvait pas dire qu'il était français, donc c'est pour ça qu'on l'a fait allemand de nationalité.
Et cet enfant se débrouille très très bien, ses petites cousines aussi sont adorables. Et puis il y a ce portrait de femme, ce magnifique portrait de femme, qui est cette fermière, qui est d'une sérénité incroyable. Gérard Junot, un dernier message sur ce magnifique film Monsieur Batignol.
Je peux dire une chose par rapport à la comédie dramatique, c'est que le cinéma n'a jamais changé le monde, mais le cinéma peut donner de la force aux gens qui veulent le changer. Voilà ce que je peux dire. Et puis bonjour à l'Australie. Moi,
eh bien,
à mes cigales.
Retournez à vos cigales et merci encore Gérard Junot.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.